Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des villages qui s'engagent pour le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme conception de logiciels et réglementation des données personnelles, et enfin l'histoire étrange du Komongistan. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 23 février 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Evani. Salut Isa.
Oui, bonjour.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, passe tout de suite à notre premier sujet. Nous allons commencer par la chronique Incode We Trust de Noémie Berger, qui va nous parler aujourd'hui, si j'ai bien compris, des points de vigilance relatifs au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, lors de la conception de logiciels. Bonjour Noémie, je te laisse la parole.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, la chronique de ce jour est consacrée aux points de vigilance en matière de protection des données lors de la conception de logiciels. C'est vrai que porté par un projet, par son objectif, on peut en oublier un principe essentiel du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD du 25 mai 2018. Ce principe, c'est celui de protection des données dès la conception. On l'appelle également le Privacy by Design. Ce principe, il est souvent associé à un autre principe que l'on retrouve dans le règlement général sur la protection des données, le principe de protection des données par défaut. Alors déjà, on peut se poser la question, mais ces deux principes, sur quelle tête reposent-ils? Eh bien, ils reposent sur le responsable du traitement, c'est-à-dire celui qui va déterminer les moyens et les finalités du traitement, et aussi sur la tête et les épaules du développeur, puisque c'est lui qui va être amené à développer une application, un logiciel, et il va falloir qu'il n'oublie pas de développer cette application, ce logiciel, au regard de ces deux grands principes. On les retrouve donc, ces principes, au considérant 78 du RGPD, qui nous explique que la protection des données des personnes, la protection des droits et des personnes, exige l'adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du RGPD soient respectées. Et ce considérant 78, il va plus loin, puisqu'il explique que le responsable du traitement doit adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent en particulier les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. À quel stade ces principes doivent être respectés? Eh bien, ils doivent être respectés lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur des traitements de données à caractère personnel. Un nom, un prénom, une adresse électronique. Donc à partir du moment où on est face à des services qui traitent des données à caractère personnel, eh bien il faut ne pas oublier de tenir compte de la protection des données lorsqu'on les développe, voire même lorsqu'on va souscrire à ces services. L'article 25 du RGPD va plus loin pour définir ces grands principes de protection dès la conception et de protection par défaut. Cet article 25 nous expose que le responsable du traitement doit mettre en œuvre au moment de la détermination des moyens du traitement, mais aussi au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées. On en revient toujours à ce qui était prévu dans le considérant 78, mais là, on a des exemples parce que ça peut être la pseudonymisation, ça peut être également la minimisation des données, c'est-à-dire garantir qu'on ne collecte que les données qui sont nécessaires pour l'application ou le logiciel, Et donc, l'idée, c'est encore une fois de protéger les droits de la personne concernée dont les données sont traitées. Ça, c'est pour la protection dès la conception. Et la protection par défaut, eh bien là, c'est une autre vision du développement. C'est là où le responsable du traitement doit mettre en œuvre des mesures toujours techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. C'est-à-dire, on doit s'assurer qu'en termes de quantité de données, en termes d'étendue du traitement et de durée de conservation et d'accessibilité, eh bien, on est dans un cadre qui est acceptable, qui est nécessaire par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Il ne faut pas qu'on traite plus de données plus longtemps que l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, encore une fois, les mesures, elles doivent garantir que par défaut, les données à caractère personnel ne seront pas rendues accessibles à un nombre de personnes indéterminées ou à des personnes qui ne seraient pas autorisées à y accéder. Voilà un petit peu cette présentation sur les deux grands principes de protection dès la conception, de protection par défaut. Alors, heureusement que la CNIL est là pour nous accompagner aussi, puisque elle rappelle que les développements informatifs doivent intégrer au plus tôt la protection de la vie privée, au moyen notamment de la sécurité. Donc, l'idée, c'est de protéger les données à caractère personnel lorsqu'on est en phase de développement informatique, évidemment dès la conception, pour être respectueux de ce principe, mais ça offre aussi une meilleure maîtrise sur les données qui sont collectées et ça permet aussi de limiter les erreurs, les pertes, les modifications non autorisées. Donc pour cela, elle donne des conseils pour faire en sorte que ces principes qui sont très juridiques puissent être appliqués en pratique. Et ça va notamment consister en des conseils sur des choix d'architecture, faire un choix d'une architecture décentralisée ou d'une architecture centralisée, des choix de fonctionnalité également pour peut-être anonymiser les données ou les minimiser en termes de collecte ou voire de les chiffrer. Elle recommande également de veiller, quand on développe une application, au public qui est visé, à savoir est-ce que cette application va s'adresser à un grand public, auquel cas c'est vrai qu'il faut faire une analyse pour justement s'assurer que les paramètres relatifs à la vie privée et au paramétrage par défaut sont puissent être facilement mis en place. Si le public visé est un public d'enfants, évidemment, une vigilance accrue pour protéger leurs données à caractère personnel. Elle propose également des conseils à mettre en œuvre au moment de la phase de test, c'est-à-dire choisir quand on est en phase de test un environnement informatique qui va être distinct de celui de la production pour éviter les piratages, les problèmes qui pourraient se passer, faire des tests sur des données fictives ou anonymisées, évidemment éviter au maximum d'utiliser les données réelles quand on est en phase de test. Donc voilà un petit peu des petits exemples concrets qu'elle peut donner pour accompagner les développeurs lorsqu'ils sont en phase de développement et qu'ils ont cet objectif aussi de respect du principe de protection dès la conception et de protection par défaut. Ce qui est intéressant de relever aussi, c'est qu'en 2019, la CNIL avait proposé un kit développeur avec un certain nombre de recommandations, toujours aussi très, très pertinentes, qui s'est un petit peu transformé, puisque en 2020, ce kit développeur est devenu le guide RGPD pour les développeurs, un guide de bonnes pratiques sous licence libre, donc qui peut avoir vocation à être enrichi par les professionnels et qui va proposer des conseils, des bonnes pratiques, des clés de compréhension du RGPD pour tous les acteurs et notamment les développeurs, avec un grand nombre de fiches thématiques, il y en a je crois 16, qui permettent vraiment aux développeurs d'aller puiser des informations quand ils sont au stade du développement pour que ce soit conforme avec le RGPD, quand ils doivent aussi identifier les données personnelles qu'ils vont avoir à traiter, quand ils préparent leur développement, quand ils veulent sécuriser l'environnement de développement. Il y a également des conseils sur la sécurité des sites Internet, sur le fameux principe de minimisation des données collectées, de gestion des utilisateurs, des conseils aussi pour tester les applications, pour informer les personnes, préparer aussi l'exercice des droits des personnes, gérer les durées de conservation. En réalité, ces bonnes pratiques, elles permettent vraiment du développement jusqu'à la phase de lancement de s'assurer qu'on n'a pas oublié une étape dans le cheminement de révision du RGPD. Donc encore une fois, ces bonnes pratiques, eh bien, elles vont encore évoluer. Hein, donc c'est vraiment des documents qui sont en cours d'élaboration, mais qui sont toujours mis dans l'actualité ne cesse d'augmenter. Et ce qu'il faut noter également, c'est que la CNIL a proposé pour les designers, donc je trouvais l'initiative assez intéressante, une plateforme qui s'appelle Données et Design, qui permet aussi, c'est un lieu d'échange pour les designers, pour justement qu'ils puissent aussi échanger et obtenir des informations, parce que eux aussi sont concernés par ces grands principes de protection de la conception et de protection par défaut. Donc voilà, ça peut être aussi une source d'information intéressante. Et pour une source d'information cette fois-ci un petit peu plus juridique et un petit peu plus costaud, on va dire, on a aussi le Comité européen de la protection des données qui a publié un guide en 2019 sur ce fameux article 25 du RGPD. Ces guidelines ont été modifiées en octobre 2020 et elles apportent aussi, alors pour le coup c'est vrai que c'est plus juridique en termes de contenu, mais ça apporte des informations sur justement aussi la transparence, sur le stockage, sur la confidentialité. Donc ça peut être aussi une source d'informations pertinente lorsqu'on est en train de développer un logiciel et qu'on s'intéresse à ces sujets, à ces principes. Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger ces notions de ces grands principes qui doivent être appliqués dès le début hein, de nos projets, des projets techniques. Alors c'est vrai qu'il y a une double vitesse parce que comme le RGPD date de 2018, bah forcément les projets qui ont été développés avant, bah, eux n'étaient pas soumis à ce principe de conception, protection de la conception, mais en réalité bah, ils ont aussi une analyse qui doit être menée pour s'assurer qu'aujourd'hui ils respectent bien les règles du RGPD. Donc au final, ces grands principes, ils s'appliquent à la fois au développement nouveau, mais aussi à ceux qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du RGPD. Voilà, donc j'en aurai terminé sur mes explications sur ces grands principes et je vous invite à consulter eh bien le site de l'April avec toutes les références pour retrouver les sources pertinentes. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi.
Merci à toi Noémie. Et puis merci pour cette chronique très, très complète, qui elle aussi d'ailleurs est je pense une excellente ressource pour se former à cette considération importante de la conception des logiciels qui intègrent la protection des données. Bah, merci beaucoup Noémie, je te souhaite également une très bonne après-midi, puis je te dis peut-être au mois prochain.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir Akane.
Eh bien, nous allons tout de suite faire une pause musicale. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Optimism par Minda Lessie. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. The light.
Nous venons d'écouter Optimism par Minda Lacey, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC BY SA 3.0, je crois. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et les détails de cette licence, justement. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'engagement de deux villages pour le logiciel libre, Louroux de Bouble, une commune de l'Allier d'environ 240 habitants et habitantes, et Ladevèze-Rivière, une commune du Gers d'une population d'environ 215 personnes. Alors j'ai le plaisir vraiment d'avoir avec moi par téléphone Cyril Cotonna, maire de Ladevèze-Rivière, et Pascal Baratou, élu en charge du numérique de Louroux de Bouble. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ah ben, parfait, alors nous avons eu quelques acrobaties avec le téléphone, aléas du direct, mais je remercie ma collègue Isabella qui a parfaitement suggéré ces aléas. Alors je précise à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent intervenir et participer à notre échange en passant par le salon web dédié à l'émission sur le salon causecommune.fm, bouton de chat. Alors je vais commencer par une question très classique, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ainsi que votre commune Cyril Cotonna, pour commencer.
Oui. Bonjour, je m'appelle donc Cyril Cotonna, je suis maire de Ladevèze-Rivière. J'entame un troisième mandat. C'est une commune donc du sud du département du Gers, proche de Marciac, pas loin des Pyrénées, et d'une population de 220 habitants.
Merci beaucoup. Et alors, il me semble que vous m'avez dit que vous avez aussi un professionnellement, du moins au niveau personnel, une expérience justement de l'informatique, des enjeux qui s'y attachent.
Est-ce que c'est... Bah absolument. Je suis informaticien à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et je travaille. J'ai en charge en fait du parc informatique de l'administration Systèmes et Réseaux. Sur le site de l'IUT d'Auch, donc qui est le chef-lieu du département.
Entendu, merci beaucoup. Pascal Baratou ?
Oui, donc bonjour, Pascal Baratou. Donc professionnellement, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les sociétés de services informatiques, des multinationales. Et pour choix privé, avec ma femme, nous avons décidé de venir nous mettre au vert. Donc à Louroux de Bouble, donc comme le disait Étienne, dans l'Allier. Et là, je suis élu donc au conseil municipal depuis le dernier mandat, et je suis en charge effectivement du numérique.
Alors merci beaucoup. Alors on a déjà reçu dans Libre à vous des collectivités de différentes tailles, mais non, la population en général était plutôt avoisinait plutôt, enfin plusieurs milliers de personnes. Et du coup, je trouve justement très intéressant d'avoir aussi le retour de collectivités d'une autre échelle. Alors certes plus petites, mais dont les besoins ne sont pas moins importants. Hein. Vous êtes tout autant responsable d'une mission de service public auprès de vos administrés. Donc je pense qu'il sera intéressant de voir, bon, au travers de cette émission de nos échanges, qui va relever des besoins habituels des collectivités, les spécificités de collectivités comme les vôtres, notamment matériellement, dans l'exercice de vos missions, et puis au final de voir comment s'inscrit le logiciel libre dans cette démarche. Alors pour commencer, voilà, vous avez tous les deux une expérience professionnelle relative à l'informatique. J'ai l'impression comme une appétence pour les enjeux politiques sous-jacents à ces questions. Et j'aimerais bien peut-être l'un et l'autre en quelques mots savoir qu'est-ce que c'est pour vous le logiciel libre. Comment vous définissez le logiciel libre? Comment vous le présenteriez à quelqu'un que vous rencontriez? Pascal Baratou.
Pour moi, le logiciel libre, c'est une façon différente de voir le numérique. Je dirais qu'il y a cette plus de transparence, peut-être un peu plus que quelques mots. C'est juste pour vous expliquer comment on l'a introduit à Louroux de Bouble. C'est tout simplement en discussion avec le nouveau maire. Hein. C'est aussi un changement de maire qui a eu lieu. Quelle est la stratégie pour la commune, etc. Il me disait, moi, je voudrais que la commune soit plus proche de ses habitants, plus proche du consommé local, avec un développement plus responsable, éthique, etc. Et je lui dis, tu sais, au niveau du numérique, on peut aussi faire des choses de ce côté-là. Il m'a demandé quoi. Donc je lui dis, tout simplement, peut-être aussi en utilisant du logiciel libre, du libre, de l'open source, puisque ça permet justement de se rapprocher, d'être plus transparent en termes d'utilisation du numérique. C'est consommer le numérique différemment.
Super, bah je pense que c'est une belle manière de définir le logiciel libre. Alors, du coup, j'ai aussi envie de vous demander, avant de passer la parole à Cyril Cotonat, quelle est votre rencontre avec le logiciel libre? Comment avez-vous rencontré le logiciel libre?
Ben, je vous disais, j'ai beaucoup travaillé, enfin, j'ai travaillé très longtemps, quasiment tout le temps dans des sociétés multinationales, en plus donc américaines. Et donc là, le logiciel libre est très utilisé, au contraire de ce qu'on pourrait voir en termes, puisque l'ensemble du ce qu'on appelle le back-office, hein, le back-end des serveurs, ce qui va héberger l'ensemble, je dirais, des sites web qu'on utilise tous les jours, utilise aussi de l'open source et des fois aussi le logiciel libre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aussi l'apporter en termes de l'utilisateur, de le rendre visible, en fait, à l'utilisateur, au commun des mortels que nous sommes. Donc c'est un petit peu ça le choix que j'ai fait. Et puis c'est vrai que la pandémie, pour regarder les bons côtés des choses, m'a permis de voir comment on pouvait faire différemment. Et c'est là où j'ai regardé le logiciel libre. Et moi-même, personnellement, j'étais très dans le monde Apple. Et là aujourd'hui, mon Mac, je l'ai gardé d'un point de vue matériel, mais j'ai installé et j'utilise Linux Mint dessus. De temps en temps, je retourne sur macOS, mais je reviens vite sur Linux Mint, puisque je m'en construis mon monde complet. Et au-delà de l'utilisation, c'est aussi une satisfaction personnelle de pouvoir avoir la maîtrise de ce que l'on fait et ne plus subir, même si des fois c'est de la simplicité, mais de plus subir donc l'utilisation et de produits de grande industrie.
Merci beaucoup. Alors, on me dit Mint, c'est l'une des distributions effectivement les plus connues de GNU Linux. Et félicitations pour cette démarche. Hein. Puis nous, on encourage justement cette pratique des petits pas, de changer au fur et à mesure ses pratiques, les interroger au fur et à mesure des choses. Et c'est une félicitation en tout cas. Alors, Cyril Cotonat, pour vous, comment vous définiriez le logiciel libre? C'est quoi pour vous le logiciel libre?
C'est une question de s'apparente plus à question de citoyenneté et de culture et de finalement d'éducation au bon usage et de démontrer que on ne peut pas résumer le numérique, l'informatique en général autour de des GAFA ou des grandes entreprises du domaine. Alors professionnellement aussi, c'est vrai que dans le milieu universitaire, moi ça fait 15 ans que je travaille en tant que gestionnaire de parc informatique et administrateur système et réseau, d'abord à l'Institut National Polytechnique à Toulouse et puis maintenant à l'Université Paul Sabatier. On utilise énormément de logiciels libres, hein, que ce soit au niveau des serveurs, au niveau aussi de développement locaux, hein, de monitoring aussi. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir montrer aussi au public, aux populations, aux jeunes gens ou aux gens un peu plus âgés, qu'il y a un certain nombre de logiciels très simples, un certain nombre de systèmes qui peuvent être utilisés du monde libre et qui répondent énormément à un certain nombre de besoins et d'utilisation. Pour la petite histoire, je travaille aussi dans le domaine, dans le monde Microsoft, hein, professionnellement. Mais au niveau libre, moi je suis plus Debian et Ubuntu UG, qui est installé aussi sur la commune de la Develle.
Oui, on va y revenir. Ça, c'est intéressant aussi que votre commune utilise aussi au terme de système d'exploitation des logiciels libres, parce qu'on sait que ce n'était pas toujours le cas. Merci déjà pour ces propos introductifs. Je pense qu'ils vont d'ailleurs se ressentir à travers nos échanges. Alors, vos deux communes ont notamment marqué leur engagement pour le logiciel libre en participant au territoire numérique libre, un label de valorisation des politiques logicielles libres dans les collectivités, porté par l'association Adulact, qui promeut justement le logiciel libre au sein des collectivités, et dont l'April est membre du jury. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu notamment, enfin qu'on a pu connaître l'engagement de vos deux collectivités pour le logiciel libre. Alors, la Devèze-Rivière est d'ailleurs labellisée 3 années consécutives et le Roux de Bouble a obtenu son premier label en 2020. Donc déjà, j'en profite bien sûr pour vous féliciter. Hein, j'avais le plaisir de représenter l'April dans le jury pour ce label. Et j'ai trouvé vos deux candidatures remarquables si on prend en compte notamment les moyens qui sont les vôtres. D'une part, la Devèze Rivière, et on va pouvoir voir ça dans nos échanges pour son engagement continu hein, depuis plusieurs mandats. Donc, et puis l'Eurodoubloup qui entame sa démarche, mais qui affiche de belles ambitions et qui ont déjà pu transparaître dans vos propos, Pascal. Alors, il serait intéressant de voir comment vos deux villages ont mis en place ou mettent en place, du coup, une politique de logiciel libre. Mais déjà, j'aimerais peut-être tout simplement vous demander pourquoi participer à ce label des territoires numériques libres. Cyril Cotona, s'il vous plaît.
Parce que ça permet d'avoir une vitrine et d'informer également, parce que j'ai trouvé que, vraiment au niveau du public, on a tendance à utiliser essentiellement des outils du monde Microsoft et des outils payants. Donc on n'est pas forcément toute la palette et toutes les offres que peuvent proposer le monde libre. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant parce que effectivement, bon, nous sommes et au contraire. Ça nous permet de sur des communes rurales de démontrer que il peut y avoir un attrait, ça peut être intéressant, utile également, et que ce n'est pas réservé que pour des communes plus importantes avec des services informatiques et un peu plus d'habitants.
Tout à fait. Pascal Baratou?
Eh ben c'est Il y a plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est, comme le disait Cyril, hein, c'est de pouvoir avoir un relais d'informations. Moi, par exemple, un cas très très concret, quand je parlais du libre au conseil municipal, on m'a dit ouais, pourquoi, à quoi ça sert, c'est un truc de geek et ça sert pas à grand chose. Et je leur ai parlé justement de ce label et ça leur a permis de mieux comprendre l'intérêt et le pourquoi. Donc ça, c'est déjà auprès des élus de la commune. Je pense qu'aussi, ça permet d'expliquer auprès des habitants aussi cette démarche et d'avoir un certain rayonnement. Et puisque les petits villages, c'est un peu compliqué de rayonner, de faire parler de nous, quel que soit le sujet. Et en termes de numérique, ça permet de s'appuyer sur un socle solide et donc donner du poids à cette démarche et cette stratégie. Voilà. Et alors, le pourquoi aussi, il y a quelque chose qui nous a beaucoup plu au niveau de ce label, c'est qu'on parle pas que de libre. Hein. Je reprends tout simplement une des phrases qui est donc sur le site, qui récompense la mutualisation des ressources, le bon usage de l'argent public et toutes les initiatives en faveur des biens communs numériques du territoire. Et ça, c'est important. C'est aussi de démontrer aux administrés que le numérique, on peut aussi économiser. C'est un petit peu ce que je disais. Il peut être responsable. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Et donc là, on avait un projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre secrétaire de mairie, elle travaille sur 3 mairies différentes et elle gère aussi, elle aussi la secrétaire pour une sorte de collectivité au niveau des écoles, puisqu'on fait des écoles sur 4 communes. Et au lieu de remplacer 4 PC différents, on a préféré lui prendre un seul PC portable et qu'elle va avoir avec elle. Et ça a donc permis d'économiser et de mutualiser justement les ressources. Alors malheureusement, je dirais, dans le cadre de cette stratégie, on n'a pas voulu le mettre directement sous le libre. Donc pour l'instant, il est sous Microsoft Office parce que, comme vous le rappeliez aussi un petit peu, Étienne, c'est un peu la politique des opportunités et des petits pas. Il ne faut pas aller trop vite. Bien faire comprendre la stratégie et surtout bien comprendre et accompagner les utilisateurs, faire ce changement. Comme tout changement, d'ailleurs, on pourrait passer de Microsoft à complètement la suite Google. Il faudrait aussi accompagner. Donc l'histoire, c'est pas plus difficile d'accompagner sur le libre. C'est simplement, il faut le faire, changer les habitudes. Donc on y va doucement.
C'est très intéressant. Alors, du coup, une question assez spécifique, mais alors, qu'est-ce qui a fait que c'est la suite Microsoft qui a été retenue? C'était la demande de la secrétaire? C'était un choix au niveau de la gestion SI? Comment ça s'est...
Non, c'était l'antériorité. Hein, elle avait un poste sous Windows. Et puis, on fait partie d'une communauté de communes qui est pro-Microsoft. Donc pour l'instant, j'ai pas voulu tout casser, je dirais, ou changer toutes les habitudes. Et donc je voulais vérifier l'adhérence que ça pouvait avoir. Mais sur son poste de travail, il y a quand même LibreOffice qui est installé et elle est amenée à travailler dessus. C'est simplement, on voulait pas tout faire puisque pour pouvoir en même temps mutualiser l'ensemble des quatre communes, enfin des trois communes plus l'entité scolaire que je disais, sur un seul PC, il a fallu faire pas mal de travail en amont, par exemple d'externaliser l'ensemble de la compta, etc. Donc il y a eu tout un travail préparatoire pour en arriver là. Donc ça, c'est le premier point. Et quand même, ce qu'on a fait aussi, c'est que le poste, par contre, le poste du maire, lui, a été passé sous Linux, hein, puisqu'on n'a pas voulu le changer, il fallait le changer, il passait pas, il était aussi sous Windows, il passait pas sous Windows 10. Donc on a dit, bah, on va pas le changer, parce qu'il n'en a pas une utilisation très forte. Donc on a décidé de le recycler, et là aussi je l'ai passé, donc celui-là il est passé sous Linux Mint, donc il est en full libre, je dirais. Voilà, donc c'est, je le répète, hein, c'est un petit peu l'opportunité et la politique des petits pas, et ça se passe très bien.
Oui, puis comme vous le rappelez aussi, les décisions politiques s'inscrivent dans le réel, et vous êtes dans la réalité notamment, voilà, effectivement, peut-être de strates administratives supérieures, et vous devez voilà, aussi vous adapter et agir dans ce contexte. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses intéressantes qu'on pourra creuser au fur et à mesure de notre échange, et notamment peut-être le début de la... Comment on engage la mise en place d'une telle politique logicielle libre. Bah, ça doit être passé par les élus, ça doit passer par les équipes SI, souvent aussi. Du coup, je vais à présent me tourner vers Cyril Cotona. Voilà, ça fait quelques années maintenant que vous avez entamé cette démarche. Alors, vous l'avez commencé dès que vous êtes arrivé, dès que vous avez été élu, il y avait déjà des bases posées. Est-ce que ça a été tout de suite accepté? Est-ce que vous avez dû, entre guillemets, batailler pour faire valoir l'intérêt de passer au libre? Comment ça s'est passé à la Devesse-Rivière?
Alors, ça s'est fait dans le courant du premier mandat. Cependant, ça a été beaucoup plus facile vu ma situation, hein, en étant maire et puis en étant en travaillant dans le monde du numérique. Accepter, oui, il a fallu quand même bien expliquer. On en revient encore à une finalement, comme disait Pascal, à une problématique de connaissance de culture et d'explication finalement. C'est ce qui c'est ce que j'ai toujours ressenti. Cela s'est fait assez relativement simplement.
Entendu. Pascal, sur cette question, vous souhaiteriez compléter? Vous avez déjà évoqué le sujet.
Oui, je pense que voilà, il faut pas vouloir faire du libre pour faire du libre. Il faut expliquer le pourquoi, tout simplement. C'est comment ça colle par rapport à comment ça accompagne la stratégie globale aussi de la mairie. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la façon d'embarquer les personnes en disant ben c'est bien. Comme j'explique souvent, on dit on veut consommer du local, on veut faire fonctionner le commerce local, on veut le favoriser, on veut le locavore, ben je dis le numérique, c'est la même chose. Il y a des choses que l'on peut faire aussi en local. Et le libre, ça en fait partie, puisqu'on va faire appel à des ressources qui sont beaucoup plus locales.
J'ai pas mal de questions qui me viennent, mais je pense qu'une question, enfin peut-être un point qui pourrait être intéressant pour la suite aussi de nos échanges, c'est concrètement, l'un comme l'autre, enfin dans vos deux côtés, c'est quoi votre, quel est le profil de votre système d'information? Combien de postes? Est-ce que vous avez des équipes dédiées? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez directement puisque vous avez ces connaissances professionnelles? Comment ça se passe? Concrètement, vous devez installer un logiciel, vous prenez la décision d'installer un logiciel et voilà, comment ça se passe, Pascal Baratou?
Nous, alors il n'y a pas de SI. Hein.
Oui, non, on se rend compte, vous disiez.
De... habitants, oui. On n'a que des élus qui sont. Qui sont, je dirais, bénévoles. Il y a la secrétaire de mairie qui, en plus, nous partageait sur trois communes, donc elle est là que les matins. Et c'est à peu près tout en termes de personnel administratif. Donc, effectivement, hein, je pense que Cyril corroborera, c'est notre volonté un petit peu personnelle, nos compétences et notre appétence qui fait qu'on pousse dans telle ou telle direction. Après, on a une commission du numérique, donc j'ai un autre élu qui est avec moi et puis bien sûr le maire. Et donc on discute des besoins et des éventuelles solutions ensemble pour ensuite les prendre et puis les appliquer. Alors en termes d'infrastructure informatique, ça reste très léger puisque il y a le poste de la secrétaire, j'en avais parlé, avec une imprimante et puis un PC qu'on a recyclé pour le maire aussi. Voilà, et je suis en train de voir, il y a une bibliothèque, donc on a la chance d'avoir une bibliothèque. Donc là aussi, il y a un très très vieux PC, je ne dirais pas sous quoi il tourne. Et donc j'en discutais avec la personne qui s'occupe de la bibliothèque et pour lui remettre effectivement un PC sous Linux à disposition. Voilà. L'autre infrastructure informatique qu'il peut y avoir, c'est l'école, donc, parce qu'on a une école maternelle et primaire. Ça, pour l'instant, je n'y ai pas du tout touché. Mais ça viendra peut-être un jour, et la personne qui est avec moi dans la commission du numérique est aussi un des représentants au niveau de l'école. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Moi, je suis pour la politique des petits pas. On avance régulièrement, très régulièrement, mais ça nous permet de bien tester. Hein, pour revenir à ta question initiale, Étienne, pourquoi Microsoft? Parce qu'il y a pas mal d'outils encore qui sont installés, spécifiques, dont j'ai pas la maîtrise. Et donc voilà, je préfère bien comprendre comment ça fonctionne, faire du ménage. Ça a été important, changement de poste de la secrétaire, et c'est la 3e ou 4e fois qu'il le change, et à chaque fois on recopie, recopie, recopie. Donc il y a plus de 120 gigas de données, et à la fin, je pense qu'on en a à peu près une dizaine qui est utile. Donc au-delà de migrer sur le libre, il y a tout le travail aussi à faire de sécuriser ça. Et donc, voilà, donc c'est le travail que je mène aussi en parallèle. Et, voilà, on ne peut pas tout faire d'un seul coup.
Oui, bien sûr. En tout cas, merci pour ces explications détaillées. Cyril Cotona, qu'en est-il à la Devèze-Rivière?
Alors aujourd'hui, à la Devèze-Rivière, nous avons 7 postes. J'ai la chance de pouvoir récupérer aussi des ordinateurs qui sont devenus obsolètes au sein de notre structure professionnelle, hein, au sein de l'université Paul Sabatier, ce qui fait que, effectivement, comme disait Pascal, c'est beaucoup plus simple de réinstaller dessus un système libre, du monde Linux, qui fonctionnera très facilement, plutôt que les dernières versions de Windows 10, qui sont très très gourmandes, notamment en matière de disques. Donc, à part le poste de la secrétaire, qui est encore sous un Windows 10, là, parce qu'il y a des problématiques par rapport à l'utilisation du logiciel de compta, on est adhérent au centre de gestion du département du Gers, comme beaucoup de communes finalement, et effectivement, eux sont plutôt ont promu plutôt des applications payantes, et il y avait une petite peur de la part de la secrétaire de rentrer dans une application de gestion comptable du monde libre. Nous n'avons plus d'école sur la commune. Cependant, nous avons réhabilité une salle de classe à Maison des Associations que l'on met maintenant à disposition dans le cadre d'un partenariat avec l'Association des maires ruraux dont nous sommes adhérents. Puisqu'on a proposé notre salle sur la plateforme Rura Connect. Donc dans cette salle, il y a deux postes sur Linux. Il y aura bientôt un petit serveur d'impression pour mutualiser et proposer de l'impression. Et puis on a dans la mairie, un poste libre accès pour les personnes qui avaient besoin de se connecter à Internet, qui ne l'avaient pas forcément chez eux, notamment des gens qui sont en résidence secondaire, également sous Linux. Bon. Les projets, là, c'est l'installation d'un serveur en virtualisant, donc sous une infrastructure Linux, de manière à, une fois sécurisée, notre infrastructure, à mettre en place donc des outils de surveillance. Voilà, c'est un peu aussi pour aller un peu plus loin et proposer d'autres services sur notre population. Notamment, enfin, la mise en place d'un outil de gestion SIG des cimetières. qui est l'application OpenCimetière qui va être mise en place dans le courant de l'année 2021.
Bien, vous devancez une question que je vois sur le salon web. Précisons que SIG, vous me corrigerez, c'est des logiciels de cartographie.
Tout à fait.
Ok. Oui, alors, une question, ce que vous parliez de besoins spécifiques de compta, on demandait sur le salon web de la radio comment vous faites de part et d'autre pour les logiciels d'état civil. La question continuant, ils ne peuvent fonctionner sous GNU Linux, je crois, donc impossible de passer entièrement au libre. Et Marie-Odile s'interrogeait sur le fait que OpenMairie ne propose-t-elle pas tel logiciel. Alors, OpenMairie, c'est des suites justement de logiciels libres qui proposent, voilà, sur nombreux besoins métiers que peuvent avoir les collectivités, et notamment la gestion des cimetières, que vous mentionniez. Alors du coup, voilà, pour l'état civil, comment vous faites, et est-ce que voilà, vous vous appuyez sur cette suite OpenMairie, pour les cimetières ou pour d'autres besoins, Pascal Baratou?
Alors, nous, on a justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est gestion de la mairie administrative, donc c'était le choix qui avait été fait il y a plusieurs années de Berger Levroux, et qui était installé donc sur le poste de travail, donc au-delà de la complexité, de la lourdeur, les risques, parce que du coup toute la base de données était installée et autre chose. Donc on a pris la décision de l'externaliser. Donc effectivement maintenant elle est en infogéré, pour reprendre un terme pas très jeune, elle est dans le cloud, mais chez Berger Levroux. Donc du coup maintenant on est complètement déconnecté et surtout on n'a plus du tout d'adhérence. On y accède via le client Citrix. Donc ça nous permet justement, ça peut très bien. Et lors du changement du poste de travail, justement, la secrétaire me disait, je suis allé sur le PC du maire et j'ai pu travailler dessus. Parce que c'est ça aussi ce que je recherche, c'est la non-adhérence des postes de travail, pour que s'il y a un souci, quel que soit le poste de travail ou la personne, elle puisse continuer de travailler au moins sur les principales fonctions de la mairie d'un autre poste de travail. Donc là-dessus, effectivement, on a résolu ce problème-là.
Super. Cyril Cantona, de votre côté?
De notre côté, vraiment, les logiciels métiers sont encore des logiciels payants. Bon, là, on est confronté de toute façon au même problème que Pascal. Les choses se mettent en place, mais lentement. Il y a une culture aussi, et puis il y a le fait que, notamment que le logiciel de comptabilité qui est utilisé, il y a derrière une équipe au niveau du centre de gestion qui peut dépanner la secrétaire quand il y a des soucis. On est en train d'y réfléchir, mais il y a quelques. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, la priorité, c'est vraiment d'offrir un outil numérique pour avoir une gestion plus simple et plus rapide et numérique des cimetières, parce que c'est encore sous format papier. Donc là, effectivement, on va vraiment passer sur une application libre, de la suite OpenMairie. Et ensuite, effectivement, il y a aussi une grande réflexion sur rendre autonomes les machines et d'utiliser un certain nombre de solutions dans les clouds.
Très bien. Alors, je vais me permettre une précision, je ne vous fais bien sûr aucun reproche, mais je sais que certains de nos auditeurs et auditrices peuvent être sensibles à ce point. Vous parlez de logiciels payants, et c'est vrai que souvent, les logiciels privateurs, on va dire qu'ils sont usagères, car on les achète quelque part un peu comme des marchandises, des produits finis. Là où le logiciel libre n'est pas tant gratuit, c'est juste que le coût est différent. C'est-à-dire qu'on peut choisir de librement s'en servir et puis de l'adapter soi-même. On peut payer des prestataires pour qu'ils adaptent le logiciel en besoin. On peut payer en interne un salarié ou une salariée pour qu'elle s'en occupe. En fait, c'est vraiment le rapport est différent, et en tout cas, on est plus libre avec le logiciel, et c'est vraiment ça qui importe. On a une meilleure maîtrise, et notamment en termes de gestion financière. Et ça, c'est très important pour le denier public. Je vous propose de faire une petite pause musicale pour se reposer les ménages avant de continuer notre échange. Nous allons écouter Love Theme par Daniel Bautista. On se retrouve dans 3 minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Thank you.
Nous venons d'écouter Love Theme par Daniel Bautista, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY-SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et je discute avec Cyril Cotonna et Pascal Baratou, respectivement maire de Ladevèze-Rivière et élu référent numérique de Bouble, de leur engagement pour le logiciel libre, l'engagement dans leur village. N'hésitez pas à participer à une conversation en passant par le salon web dédié à l'émission sur causecommune.fm, bouton chat. Alors, avant la pause, c'est vrai que j'ai parlé, voilà, logiciel, enfin, notion de logiciel payant, gratuit, etc. Et peut-être qu'en fait, vous souhaiteriez réagir à ces notions, Pascal Baratou ou Cyril Cotonna.
Oui.
Pascal Baratou, oui.
Moi, je suis pas, enfin, oui. Je veux pas faire du libre pour faire du libre, et voilà. C'est saisir des opportunités. C'est quand on a le choix, effectivement, c'est de promouvoir le libre, l'open source. Mais des fois, on n'a pas le choix et on est obligé de passer effectivement par des logiciels, des services qui sont propriétaires ou privatifs, pour reprendre le langage des libristes. Et ce qui est très bien aussi, hein, faut pas non plus, c'est pas parce que c'est des logiciels appartiennent et que le code source appartient à une société que c'est fatalement mauvais. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je veux dire. C'est de voir le numérique différemment. C'est de penser un petit peu différemment, c'est de se challenger aussi, plutôt que de réagir à des effets de mode ou des solutions de simplicité. Je fais souvent, quand on me demande le libre, l'open source, pourquoi tu es sur Linux, à des gens qui ne connaissent rien, ben je dis c'est, t'as le choix d'aller faire tes courses en supermarché, d'acheter des lasagnes toutes prêtes, t'arrives chez toi, tu les mets dans le micro-ondes, voilà, tu les fais chauffer, c'est prêt, c'est facile. Tu sais pas trop ce que tu manges, mais voilà, ça te nourrira et tu t'en porteras pas forcément très mal. Et puis de l'autre côté, bah, t'as le choix de faire ton potager, d'aller acheter tes graines, de faire pousser tes légumes, d'avoir tes recettes, et t'as la satisfaction de faire tout ça, de préparer ton repas et de le manger, et peut-être qu'à la fin quand même ça sera meilleur. Mais bon, là la finalité reste à la fin la même, c'est toujours de se nourrir. Donc là, c'est un petit peu le parallèle que je fais, simpliste, sûr, mais qui permet de bien faire comprendre les choses.
Et c'est intéressant parce que je sais que nos amis de Framasoft sont très friands aussi de cette comparaison, de dire que le logiciel libre, en fait, c'est le bio de l'informatique. Mais pour filer peut-être votre métaphore, je propose aussi, ce serait un bio, le logiciel libre, mais qui intégrerait également la part d'échange et de travail collaboratif. Et c'est ensemble aussi qu'on pourrait cultiver notre potager, et que peut-être quelqu'un qui aurait moins la main verte pourrait quand même participer, mais être aidé et accompagné par des personnes qui sont plus connaisseurs de l'art potager. On va dire.
Bah, tout à fait. C'est ce qui se passe dans le village ou ailleurs. Hein. Si on est dans un petit village, on parle de ça. Mais quand on fait un potager, on échange avec son voisin. On a une surplus de tomates, on va lui en donner. Lui, il a un surplus de carottes, on va échanger. Voilà, il y a plus d'échanges que devant la barquette de lasagne Findus dans le supermarché où il n'y a pas vraiment d'échange.
Oui, on est d'accord. Cyril Cotton, est-ce que vous souhaitiez réagir à cette notion, voilà, payant, gratuit, ou continuer sur ce propos?
Je rejoins tout à fait Pascal. Il ne faut pas voir l'utilisation des logiciels libres du monde Linux en affrontement avec le monde des logiciels propriétaires. Au contraire, et c'est vrai que on peut utiliser les deux sans problème. Mais on a maintenant le choix, comme disait Pascal, et c'est vrai que c'est intéressant, notamment pour des communes de notre taille, je dirais, et encore plus pour des communes rurales, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi des contraintes budgétaires, et il y a un certain nombre d'applications qui peuvent être utilisées sans un gros coût d'investissement. Et puis, il y a aussi le côté, on va dire, développement durable, si je peux me permettre, puisque malgré, bon, peut-être des consommations électriques être un peu plus importantes sur des vieilles machines par rapport aux récentes, il est possible de recycler et donc de ne pas changer une machine quand elle est un peu âgée et de pouvoir encore l'utiliser par rapport Par rapport aux besoins que l'on a, hein, parce que quand on a besoin de faire un peu de bureautique ou de surfer entre guillemets sur Internet, une machine même ancienne peut très bien faire l'affaire. Et c'est vrai que des logiciels libres, et notamment des systèmes d'exploitation libres, Linux, répondent très bien à la demande.
Mais permettez-vous, vous avez raison, c'est un enjeu très très important. D'ailleurs, on a nos amis dans Tanac, qui est une association qui aide justement au reconditionnement d'appareils, et qui font une chronique sur Libre à vous. Et clairement, c'est quelque chose d'assez essentiel. On m'avait posé une question en amont de l'émission à un auditeur. Je pense que la question est assez importante. Je vais peut-être revenir un peu en arrière dans notre échange du coup. Et c'est celle de l'accompagnement. Parce que, alors, je ne sais plus qui de vous deux avait parlé de l'accompagnement au changement. Ces notions de la formation. Hein. Vous avez parlé, voilà, par exemple, de la secrétaire, du maire à qui on présente ces nouveaux outils. Comment s'est mis en place? Enfin, est-ce qu'il y a eu une formation? Comment s'est fait cet accompagnement vers ces nouveaux outils? Comment a été reçu par comment ont été reçus ces nouveaux outils? Est-ce que la personne a dû faire, contrainter forcément, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comment ça a été reçu, Pascal Baratou, par exemple, ou Cyril Cotonat?
Ça a surtout impliqué la secrétaire, parce qu'au-delà de ça, la même chose, on utilisait une vieille version de la suite Office qui n'était plus mise à jour. Donc on a basculé vers les dernières versions de LibreOffice qui répondent très bien aux besoins que l'on a sur notre mairie. Donc il y a eu une petite auto-formation et un temps d'adaptation. Et surtout pour lever en fait des interrogations ou une image que l'on se faisait de ces applications libres qui ne répondaient pas forcément aux besoins. Donc voilà. Concernant les habitants, nous avons surtout mis en place, ce sont disons que les interfaces graphiques maintenant sur les ordinateurs que l'on a mis en place sont beaucoup plus très facilement utilisables, donc il n'y a pas eu trop de problématiques. Sur l'utilisation, il y a eu un petit accompagnement, mais c'est assez simple. Quant aux élus, il y a eu beaucoup d'informations, essentiellement, quelques auto-formations, et puis de manière à ce qu'il y ait des périodes de test, de manière à ce qu'ils puissent se rendre compte que les choix que nous faisions répondaient bien aux attentes et aux demandes de notre collectivité.
Super. Pascal Baratou, qu'en est-il à Lourdes-Boubles?
Alors la formation a été relativement simple, comme je disais, pour l'instant il n'y a que le poste du maire qui a été complètement migré. Lui il utilisait déjà LibreOffice de façon personnelle, ce qui a aidé. Hein. Et quand je lui ai présenté la machine sous Linux, il a retrouvé très facilement ses habitudes, sûrement parce qu'il a une version un peu plus ancienne de Windows. Et il n'a eu aucun problème et il s'est vite retrouvé. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec lui pour lui expliquer, mais j'ai pas eu trop de difficultés. En termes pour les habitants, pour l'instant ils sont pas confrontés. Alors ce que je voudrais compléter, parce que j'entendais Cyril qui parlait aussi de la salle ouverte au public, la via Rura Connect. Nous aussi on est sur Rura Connect. Et notre attention, parce qu'on est en train de refaire toute la mairie, c'est d'avoir une salle qui est dédiée, effectivement, où on pourrait mettre à disposition aussi des PC aux habitants ou de gens qui sont de passage. Et donc là, effectivement, ça permet d'équiper, d'utiliser le libre, comme l'a fait la commune de Cyril, en reprenant et en recyclant des PC plus anciens, mais qui fonctionnent parfaitement, et les mettant sous Linux.
C'est un bon exemple.
Ce qui permettra justement de mettre la main à la patte pour les habitants et de voir que le libre, c'est aussi simple et des fois même plus simple que certains d'autres systèmes propriétaires.
Tout à fait. Et en fait, je voulais justement avoir vos retours là-dessus sur le. Vous en avez déjà en fait parlé l'un comme l'autre, mais de relations avec les administrés, avec les habitants habitantes. Alors imagine justement aussi à l'échelle de villages d'un peu plus de 200 âmes, que les relations sont plus directes, plus simples peut-être ou pas. Mais du coup, voilà, les services, donc, vous proposez des machines au logiciel libre. Comment est-ce que ces efforts vers une informatique libre sont perçus par les habitants mutants? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Comment ça se passe?
Moi, par exemple, bon, c'est plus à titre privé, mais j'ai eu quelqu'un pendant la pandémie qui me dit ouais, j'ai mon PC qui est tombé en panne, j'ai récupéré celui de mon père, mais je n'ai pas les mots de passe, j'ai rien, je ne sais pas quoi en faire. Donc je lui ai pris, je l'ai regardé, je dis écoute, il est le mot de passe de Windows, je ne l'ai pas, et moi Windows, c'est pas. Je ne suis pas un expert. Je lui dis, bah, écoute, moi je peux te le remettre sous Linux, ça me dit c'est quoi, je lui explique, tu sais, c'est pas comme Windows, elle me dit vas-y. Donc je le réinstalle, je lui redonne, c'était comme la première pandémie, donc on pouvait pas vraiment se voir, on s'est changé le PC. Puis j'avais plus de son, plus d'image de cette personne-là, donc un jour je l'ai rappelé, j'ai dit mais t'as du mal. Elle me dit non, je l'utilise tous les jours, ça marche très bien. Donc en fait, voilà, elle me dit mais pourquoi? Ben, j'ai dit il est pas sous Windows, il est sous Linux. Ah bon? Donc voilà, donc ça a été plutôt un très bon retour et aujourd'hui, voilà, elle l'utilise tous les jours sans aucune difficulté. Donc c'est plutôt très rassurant et bien parti, donc j'hésite pas à faire la promotion et de ce type de voilà de cette possibilité de passer sous Linux quand on a des soucis avec d'autres systèmes.
C'est super, oui, convaincre par l'exemple, de toute façon on sait que
oui, voilà,
c'est plus efficace. Cyril Cotona, qu'en est-il pour vous?
Écoutez, c'est plutôt sur la sphère privée. Parce qu'en fait, j'ai fait le pari de ne pas donner le choix à mes parents, qui ont un certain âge, hein. Ils sont dans la tranche 70-80, en leur installant des ordinateurs sur Linux. Ils en sont très ravis, ils s'en servent tous les jours, aucun souci, et ils n'ont pas vu la différence. Donc, ça laisse ouvrir d'autres incitations et développements sur d'autres administrés, sur d'autres communes.
Alors pendant ce que vous avez évoqué, la pandémie, on sait bien quel impact ça a pu avoir et la place qu'a pu occuper l'informatique pendant cette période. Est-ce que voilà, ça, vous avez mis des services en place? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que la mairie a essayé de jouer un rôle là-dedans? Je sais que c'est pas évident, hein, mais...
Alors, nous, ça nous a permis de prendre conscience. Donc, effectivement, la première pandémie, alors j'étais pas encore élu, c'est quand même un petit village, donc on sait un peu plus facilement qui va être élu, surtout qu'il n'y a qu'une personne qui se présente. Et on discutait, et notre gros problème, ça a été comment communiquer avec les habitants. Et on a échangé, tant que le maire n'était pas en place, il voulait pas prendre de décision, l'ancien maire voulait rien prendre, donc on a attendu un petit peu, peut-être que tout ça se décante. Et on a fait le choix, effectivement, de prendre une application, alors qui malheureusement n'est pas libre. Mais comme on dit, le libre n'est pas une obligation non plus. Donc on a pris une application de communication auprès des habitants. Donc, on a fait le choix d'Intramuros, et qui permet aussi, puisque le site web était très vieillissant, de me permettre aussi d'avoir un site web en même temps. Donc du coup, ça nous a permis de mettre en place quelque chose pour mieux communiquer auprès des habitants. Alors les habitants, bien sûr, qui sont déjà connectés, on en a bien conscience, mais ça permet de faire un canal de communication et de montrer que des choses peuvent se faire assez facilement, tant au niveau des habitants, mais aussi des élus. Parce que souvent, c'est dans les petits villages, on ne fait rien parce que ça semble très compliqué. Que je leur montre, c'est que c'est pas compliqué. Voilà, ça demande bien sûr, mais c'est comme tout, ça demande un petit peu de travail et de savoir-faire, mais pas forcément des grandes compétences. Et je voudrais justement en profiter pour dire que, voilà, on voulait un système de partage de fichiers, puisque le maire se plaignait un petit peu de dire, quand la secrétaire est là, j'ai pas accès aux fichiers. Bah, j'ai dit, comment tu fais? Je suis obligé de lui demander, elle me l'envoie par mail, etc. Donc c'était pas vraiment simple. Le besoin reste basique. Et donc, on a fait. J'ai dit, il faut qu'on ait un système de partage de fichiers. Et comme on a une petite commune, j'avais pensé à prendre un serveur, mettre Nextcloud dessus, etc. Donc j'aurais pu le faire personnellement, mais je pense toujours un petit peu au plus tard, je peux quitter la commune. Et voilà, il n'y aura pas eu les compétences nécessaires sûrement pour faire la suite. Donc on a choisi une solution, alors pas libre, mais open source, donc d'une société française basée en France, etc., qui est COSY, qui permet donc justement de partager et surtout de flexibiliser le travail. Et comme je disais au départ, le fait que le poste de travail n'est plus adhérent, puisque la secrétaire, quelque part, elle peut travailler de n'importe quel poste de travail, puisque tout ce qui est administratif, c'est maintenant dans le cloud chez le fournisseur. Les informations importantes, les documents sont dans le cloud, ça permet d'accéder par ailleurs si on en a besoin, tout en amenant, très important, une couche de sécurité. Et là aussi, le libre, de par sa facilité d'upgrade, de pas forcément avoir des grosses licences à payer, de changer des postes de travail, permet de maintenir des postes de travail justement beaucoup plus à jour et de lutter contre la cyber, les cyberattaques, qui est en train de, le fléau qui est en train de prendre place malheureusement dans le monde de l'Internet.
Plus on est dépendant de l'informatique, plus effectivement il y a de surface vulnérable. Cyril Cotona, comment ça s'est passé à côté de la Devesse Rivière?
Ou à peu près de façon similaire, on a communiqué. Alors, moi, pour le coup, j'étais déjà réélu, mais le conseil n'était pas, l'équipe municipale n'était pas en place, donc il a fallu gérer avec les anciens et les nouveaux. On a communiqué par mail parce qu'on a réussi à avoir à peu près la moitié de la commune qui, auquel on connaissait les adresses mailleurs. On a utilisé aussi une solution d'information à la population via smartphone. Alors c'est une application qui est en partenariat aussi avec l'Association des maires ruraux de France. Et puis on a la chance d'avoir un site internet qui avait été réalisé dans le cadre d'un projet avec les étudiants de l'IT informatique de Toulouse et qui sur lequel donc on a pu mettre en place un certain nombre de informer et communiquer auprès des personnes de nos administrés régulièrement. Voilà. On utilise aussi au sein de avec la secrétaire et puis l'ensemble des élus. Ça fait maintenant bien 10 ans qu'on utilise des solutions de partage de fichiers sur des solutions open source également. Hein. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide pour pouvoir donc travailler et de travailler de façon avec le souci de façon collaborative. Voilà. Donc c'est très très on l'utilise maintenant et c'est vraiment rentré dans les mœurs au niveau de l'équipe municipale et au niveau de la secrétaire.
Entendu. Alors, notre émission, ce que je vois le temps filer, arrive vers sa fin. Alors, j'aurais une question très, très rapide à poser à Pascal Baratou. Vous avez bien parlé de COSY Cloud, où on m'a mal entendu, parce qu'il me semble bien que c'est bien un logiciel libre, c'est sous licence GNU Afero GPL.
Oui, c'est COSY. Alors, je ne vais pas regarder si c'était libre ou pas.
Pas nouvelle, puis c'est libre a priori.
C'est OZY, voilà.
Ok.
Tant mieux.
Tant mieux, voilà, c'est sûr. C'est sûr. Comme je vous disais, notre émission va arrive sur la fin, mais j'aimerais permettre à chacun de vous, en une ou deux minutes, donner un temps de conclusion pour parler soit d'un projet qui vous tient à cœur, un élément clé sur lequel vous aimeriez revenir. Pascal Baratou, en une minute ou deux.
Donc effectivement, moi ce qui me tient à cœur, c'est de rendre le numérique accessible à tous. On parle beaucoup de numérique inclusif, les 13 millions de Français qui n'ont pas accès. Si effectivement, alors je ne pas voir en moi un ayatollah contre les GAFA, mais si les GAFA ont joué un rôle effectivement très important dans le déploiement du numérique, il ne faut pas se le cacher. Si on en est là où on est aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Mais il y a d'autres voies et effectivement le libre permet à pas mal de personnes de faire autrement et de voir le numérique différemment. Souvent quand je discute avec des gens, parce que j'ai créé aussi une association Connecting Bourbon, et je peux rencontrer des chefs de projet, et quand ils me disent voilà, j'ai créé telle ou telle société, enfin, ou entreprise solidaire, par exemple quelqu'un qui ouvre un magasin en vrac, etc. Donc il me dit ouais, mais Pascal, tu vas encore faire tes courses en supermarché, viens plutôt en vrac, etc. Donc, elle m'explique tous les avantages et ce que je comprends, hein. Et elle me dit, je lui dis, bah, écoute, donne-moi ton mail et blablabla @gmail.com. Et je lui dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta stratégie. Tu ne peux pas vanter d'un côté tous les bienfaits du local, du responsable, de l'éthique, etc. et de continuer à travailler ou à utiliser d'autres services pour lesquels, quelque part, tu es un petit peu contre. Donc c'est aussi cette prise de conscience qui est importante. Après, ça reste le choix personnel de chacun. On peut toujours aller acheter, comme je disais, son plat de lasagne Findus dans son supermarché, le mettre dans son micro-ondes et utiliser les GAFAM. Je crois qu'il n'y a pas à être contre pour ou contre, mais il faut être honnête avec soi-même et surtout aller jusqu'au bout de sa démarche, quelque part. Et je pense que le rôle des villages sont aussi importants. Comme on disait au départ, les grandes villes ont plus de moyens que nous. Et donc, c'est aussi un avantage, quelque part, de ne pas avoir de moyens, parce qu'on doit un peu plus se débrouiller, on doit être plus inventif, trouver d'autres solutions, les faire différemment. Donc ça se fait dans beaucoup de choses, on partage beaucoup plus, comme je disais. L'école maternelle, elle est fermée, on s'est regroupé à plusieurs villages, donc maintenant on est 4 villages. Voilà, le matériel agricole ou le tracteur de la commune, il est partagé avec d'autres. On a partagé le PC, on partage des choses, on a monté un groupe de territoire numérique pour discuter entre nous, voilà, et le libre amène bien sûr quelque chose d'important à ces projets-là, puisqu'on ne doit pas rester seul dans son coin, mais être plus travailler tous ensemble. Il ne faut pas non plus que le libre, faire du libre pour du libre. Il faut que ça corresponde à une stratégie, ou tout au moins une envie de faire globale.
Merci. Alors je précise, ce n'est pas la fin de notre émission, mais de notre échange, de notre sujet qui arrive à sa fin. Merci pour ces mots de conclusion. Cyril Cotona.
Ouais, non, je pense que le numérique libre peut répondre à un certain nombre d'attentes dans nos territoires ruraux. Permet aussi finalement d'aider à éduquer, à informer les gens qu'on peut faire un certain nombre de choses avec pas forcément que de l'utilisation de logiciels propriétaires, de logiciels GAFA. C'est vraiment, hein, encore une fois, je ne rentre pas en guerre contre les propriétaires ou les grosses entreprises, mais je trouve que effectivement, on a une chance d'avoir un certain nombre d'outils et la chance de pouvoir les utiliser, les mettre en place dans des villages comme les nôtres, villages ruraux, avec très peu de moyens et voire très peu de population. Donc il y a un gros challenge et moi c'est vraiment de pouvoir aider aussi les gens à pouvoir avoir accès à l'outil numérique, mais également pouvoir influer peut-être les générations futures sur l'utilisation de logiciels libres en parallèle avec les logiciels propriétaires.
Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Donc, Cyril Cotona, maire de La Devèze-Rivière, et Pascal Baratou, référent numérique de Leroux de Boubles, deux villages donc, qui s'engagent pour le logiciel libre. Un grand merci pour d'avoir passé ce moment avec nous et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Alors, je vous propose à présent de faire une pause musicale. Nous allons écouter Side Effects par Fog Lake. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Joke.
nom d'écouter Side Effects par Fogleg, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Alors nous allons à présent écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, une chronique enregistrée le 13 janvier 2021 avec mon collègue Frédéric Couchet sur l'étrange histoire du Congo-Kistan. On écoute donc Véronique et Frédéric et on se retrouve juste après, dans une dizaine de minutes, en direct sur Cause Commune, La Voix des Possibles.
Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU, c'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Pour cette nouvelle chronique, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « L'étrange histoire du Congo-Kistan » ou « Comment faire voler en éclats l'expression « propriété intellectuelle ». Véronique, nous t'écoutons.
Alors c'est un article de Richard Stallman. Tu as lu le titre, il ressemble vraiment beaucoup au titre d'un roman de Jules Verne. Ce texte date de 2015 et il est disponible en ligne dans la traduction du groupe de l'April qui s'appelle Trad GNU, qui a une mission extrêmement importante. Alors Richard Stallman précise à propos de ce texte qu'il s'agit d'une parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Ballo, en grec, ça veut dire envoyer, un ballon, ce qu'on envoie. Para, ça veut dire vers ou contre. Et donc une parabole, c'est un récit qui renvoie à autre chose que lui-même. C'est une étrange histoire qui fait l'objet d'un récit et qui va renvoyer à une expression apparemment solide que tout le monde emploie, à tort et à travers, qui est l'expression « propriété intellectuelle ». Il se trouve que Richard Stallman, avec cette parabole, va dire qu'il s'agit d'un mirage, qu'il s'agit d'un faux semblant qu'il est très important de dénoncer. Comment commence le texte ? Il y a 50 ans, aucun lien, aucun commun dénominateur n'existait entre trois pays, d'une part la Corée, d'autre part la Mongolie et enfin le Pakistan. Il n'y avait absolument, il y a 50 ans, aucun lien entre ces trois pays. Or, il se trouve que certaines entreprises ont voulu faire de ces trois pays leur zone d'influence pour y faire des affaires. Et pour simplifier leur démarche, il se trouve que ces entreprises ont fait apparaître un terme totalement nouveau, totalement factice, fait de trois syllabes, chaque syllabe étant une syllabe de chacun des trois pays. De Corée, on a gardé « ko », de Mongolie, on a gardé « mong », de Pakistan, on a gardé « istan », d'où le surgissement d'une chose assez incroyable, le « komogistan », sans aucun égard pour l'histoire spécifique de chacun des trois pays. Il s'agit d'une construction intéressée, totalement artificielle, à des fins publicitaires. Bon, moi, si j'avais une analogie à faire, je penserais à Coca-Cola qui a créé le Père Noël, un bonhomme rouge, conducteur de traîneau, portant des bouteilles de Coca. Donc quelque chose de complètement opportuniste. Et il se trouve que nous avons oublié l'origine de cette construction publicitaire opportuniste. Exactement la même analyse est faite par Richard Stallman à propos du Congo-Kistan, dont la réalité sidérante est apparue progressivement comme naturelle. Et en effet, donc à la suite de cette décision opportuniste d'entreprise qui voulait simplement faire de l'argent, il y a eu par exemple une revue d'études komogistanaises qui ont, par exemple, développé la figure de Genghis Khan, unificatrice, alors que Genghis Khan est en réalité mongol. À partir de là, on fleurit des écrits sur le Komogistan qui n'attribuait à la Corée, à la Mongolie, au Pakistan que des caractéristiques totalement artificielles, puisqu'en effet, l'histoire respective de ces trois pays s'est trouvée effacée. Alors ceci excluait bien sûr des analyses géopolitiques fines, puisque cet écran de fumée d'un contexte komongistanais élargi était là simplement pour que les personnes ne se posent pas de questions et pour qu'il soit plus simple de faire des affaires. Alors si on y réfléchit, ceci revient à déposséder ces trois peuples de leur histoire et même de leur écriture, puisqu'il y a eu une tentative de faire écrire le coréen avec des caractères arabes qui n'intervenaient que dans le Pakistan et dans la langue pakistanaise. Alors bien sûr, les promoteurs de cette escroquerie intellectuelle qu'est le Komogokistan se sont référés à de prétendus points communs, bricolés, fallacieux. Et ce que montre Richard Stallman, c'est qu'en réalité, le seul point commun entre ces trois pays est que chacun des trois pays contient la lettre A, ce qui est mince. Et donc, si on réfléchit à ce qui s'est passé, c'est seulement le mot Komogistan qui a été présenté comme preuve de l'existence de cette entité totalement fictive. Bon, c'est exactement ce que Rousseau appelle un galimatia, c'est-à-dire un mot qui ne vous renvoie strictement à rien, sauf à lui-même, mais qui bien sûr fait des dégâts, puisque ce terme finit par être utilisé tout en broyant du vide. Alors heureusement, hein, concernant le Komongistan, les peuples concernés des trois pays ont résisté aux tentatives d'effacement des trois entités initiales parce qu'on voulait leur imposer une seule ambassade, une seule religion, une seule langue, ce qui est aberrant. Alors si l'on passe maintenant de la parabole à la question de la propriété intellectuelle, on voit bien que l'expression propriété intellectuelle est aussi abusive et privatrice que de parler de Komogistan. En effet, derrière ce que Richard Stallman appelle un mirage, pour mieux abuser les utilisateurs de la pensée que nous sommes tous, pour nous empêcher d'utiliser notre esprit critique, il y a des notions très différentes. Quand on parle de propriété intellectuelle, expression qui ne signifie rien, qui est aussi factice que Komongistan, en réalité, il y a des notions très différentes. La notion de droit des brevets, droit d'auteur, droit des marques, loi concernant le monopole des semences, des circuits, de la publicité. Et donc il se trouve que ces différentes notions qui sont camouflées derrière une expression globale factice sont à examiner très soigneusement pour penser. Alors comme je suis professeur de philosophie, je dirais que ce à quoi nous invite Richard Stallman ici, comme Descartes, c'est à penser clairement et distinctement pour éviter de se laisser abuser, se laisser abuser faisant partie du jeu extrêmement trouble de l'informatique non libre, alors que l'informatique libre, je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point, Fred, veut faire la lumière.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Véronique. Je ne me souvenais pas de cet article de Richard Stallman, donc je t'en remercie. Je précise aux auditeurs et auditrices qu'elles peuvent le retrouver sur le site de gnou.org, et donc traduit en français par le site TradGnou de l'April. C'est une très belle analogie, et effectivement, depuis très longtemps, comme Richard Stallman, nous encourageons à ne pas utiliser ce terme de propriété intellectuelle. Pour les problèmes évoqués, comme tu viens de le citer, notamment sur qu'elle englobe différents droits qui ont chacun leur spécificité, hein. Tu as parlé du droit des brevets, du droit d'auteur, du droit des marques, et également aussi le fait que le terme propriété intellectuelle pourrait laisser penser qu'on applique les mêmes schémas de pensée à des biens physiques et à des ressources immatérielles, comme le logiciel, or que ce n'est pas du tout la même chose. Nous on le sait, beaucoup de gens le savent, mais voilà, c'est utiliser le terme propriété intellectuelle laisse penser qu'on applique les mêmes schémas de pensée au physique, enfin au bien physique et aux ressources immatérielles. Donc encore un très beau texte de Richard Stallman. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose.
Moi je trouve que faire la lumière est vraiment ce qui caractérise les libristes. Penser que le code source sur lequel veille la communauté libriste est ce qui nous garantit la certitude de ne pas tomber dans des verrous logiciels, dans des portes dérobées et autres magouilles techniques extrêmement préjudiciables, est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose de rassurant et qui doit pouvoir être exposé.
Tout à fait. Et tu y participes grandement avec ces mises en perspective des textes de Richard Stallman. Donc le texte d'aujourd'hui, c'était « L'étrange histoire du Comongistan » ou « Comment faire voler en éclats l'expression propriété intellectuelle ». Donc c'était la chronique « Partagée et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Très bonne soirée à toi, Fred.
Merci.
Nous venons donc d'écouter la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, une chronique enregistrée le 13 janvier dernier avec mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez toutes les références utiles sur april.org. Nous allons approchons de la fin de notre émission à grands pas et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, une annonce importante, hein, car nous avons le plaisir d'annoncer que le Chapril, donc le chaton de l'April, ouvre un nouveau service libre en ligne, accessible à tout le monde, mobilisons.chapril.org, un outil fédéré de gestion d'événements qui vous permet de réaliser des rassemblements comme vous le souhaitez, tout en préservant la confidentialité des participants et des participantes. Le service s'appuie sur le logiciel libre Mobilisons, développé par Framasoft. Un bravo et un grand merci à Baptiste Lemoine, que nous avions reçu la semaine dernière dans Libre à vous. Donc un grand merci pour ce nouveau service. Des annonces, alors je vous invite à retrouver d'autres annonces sur notre site, notamment si vous êtes du côté de Vendôvre-lès-Nancy. Deux ateliers sont tenus demain sur Mindtest et OpenStreetMap. Alors vous trouverez les références sur le site de l'April et sur l'agenda du Libre. Notre émission se termine. Donc je vais remercier bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Noémie Berger, Cyril Cotona, Pascal Baratou, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanni qui a magistralement bien géré un problème de téléphone que nous avons à peine entendu, enfin nous n'avons pas entendu du coup. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Imbert, Languin, Sylvain Kunzmann, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La semaine prochaine, l'émission aura lieu donc le 2 mars 2021 à 15h30. Nous parlerons de syndicalisme dans le secteur de l'informatique avec Solidaire Informatique. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 2 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.